France Culture.
Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Nous sommes le vendredi 8 septembre 2017 dans le West Side de Chicago. Il est 23h30. Kenika, 19 ans, a réuni trois amis qui, selon les versions de l'histoire, ont l'intention d'aller au cinéma ou de sortir fêter le nouveau job que Kenika vient de décrocher. En chemin, les quatre jeunes femmes changent d'avis et décident finalement de se rendre à une fête d'anniversaire dans un hôtel, le Crown Plaza O'Hare Hotel, à Rosemont, dans la banlieue de Chicago. Sur la route, elles s'arrêtent chez un ami pour s'équiper et passer en mode fête. D'après un podcast québécois, Distorsion, qui a reconstitué la soirée minute par minute, elles emportent une enceinte Bluetooth, une bouteille de cognac, des boissons énergisantes et de la marijuana. Les fêtardes arrivent ainsi à l'hôtel à 0h13 du matin. Elles montent au 9e étage, chambre 926, où se déroule la soirée. À 3h du matin, elles sont fatiguées et veulent rentrer. Dans l'ascenseur, Kenika se rend compte qu'elle a oublié plusieurs affaires dans la chambre. Ses amis se proposent d'aller les chercher pour elle, ce qui n'est pas très clair. Pourquoi n'y va-t-elle pas elle-même? Toujours est-il que lorsqu'elles reviennent, Kenika n'est plus là. Elle ne réapparaîtra jamais. Toute la nuit passe, puis la journée, jusqu'à ce qu'on la retrouve morte dans le congélateur de l'hôtel. Que s'est-il passé? Comment peut-on se retrouver à 3h du matin dans un congélateur? Quelqu'un a-t-il refermé sur elle la porte de l'énorme armoire à congélation exprès? Les premières enquêtes affirment que sous l'effet de l'alcool et de la drogue, Kenika aurait confondu la porte du congélateur et celle de l'ascenseur. L'affaire passionne d'autant plus le public que la soirée a été presque intégralement postée sur les réseaux sociaux par des invités qui, comme il se doit, ont passé la moitié de leur nuit à se filmer et se prendre en photo. Ces images deviennent virales. Celles de la vidéosurveillance qui montre Kenika titubant dans les couloirs circulent également. Toutes suscitent les interprétations les plus diverses, farfelues et contradictoires. Les enquêteurs finissent par conclure à un accident. La famille fait appel et réclame aujourd'hui 50 millions de dollars à l'hôtel de dommages et intérêts. Tout de suite, dans les pieds sur terre, lendemain de fête oblige, voici quatre autres histoires de fête qui tournent mal, racontées par Alice Babin, avec tous mes vœux de belle et nouvelle année.
Je m'appelle Moussa, j'ai 29 ans, je suis consultant en management. Alors l'histoire remonte à mai 2013, soir de mon anniversaire. Comme régulièrement dans mes anniversaires, on fait ça sur les bords des quais de la Villette. Et là, je pense qu'on était une bonne cinquantaine. Voilà, c'est des mecs du sud-ouest d'où je viens, c'est des Parisiens, c'est des personnes que j'ai rencontrées à l'étranger lors de mes études, de mes boulots. Et c'est toujours très bonne ambiance, c'est détendu, on mange bien, on boit bien, on se marre bien. Donc du coup, la soirée se passe vachement bien, arrive à peu près 1h30, donc le temps de sortir. Là, du coup, le groupe se motive petit à petit, donc c'est toujours un petit peu lent de faire bouger tout le monde. Et il y avait un groupe qui traînait un peu plus à l'arrière et qui était monté sur un bateau pour se marrer. Je vais les chercher, mais je sentais qu'il se tramait un truc derrière. Donc j'ai un de mes potes, Martin, qui revient avec mon autre pote, Louis, et ils reviennent super contents avec une énorme bouée de sauvetage, ouais. Et là, c'était trop bien parce que du coup, tout le monde avait signé sur la bouée. Donc, c'était un peu mon gros cadeau d'anniversaire de la soirée, un peu improvisé. C'était cette bouée-là signée par tous mes potes avec des joyeux anniversaires, etc. Donc, je trouvais ça très drôle. Je l'ai mise autour de mon cou et puis on est parti en boîte avec. Et là, à ce moment-là, j'avais un seul souci, c'était de se dire est-ce que ma bouée passera au vestiaire? Et en entrant, en fait, oui, en fait, elle passait au vestiaire. Il me la prenait pour 2 balles, donc ce qui est pas cher pour une bouée. Par contre, j'avais pas de monnaie pour prendre des verres ensuite. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais retirer quand même, 20, 30 balles. Donc du coup, je fais demi-tour, je vais au distributeur. Là, j'ai toujours la bouée autour du cou. Et là, en fait, j'entends un énorme coup de frein à main. Et d'un coup, là, je comprends pas ce qui m'arrive et je me retrouve plaqué contre un mur avec des flics dans le dos qui me disent, bouge pas, enfin voilà, qui me gueulent autour. Du coup, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc il me pose tout un tas de questions, comment tu t'appelles, où t'habites, et ensuite il me pose la question de la bouée. Bah, je dis bah, c'est mon anniversaire, mes potes me l'ont ramené pour mon anniversaire. Je sais pas d'où il vient, mais voilà, vous voyez, c'est signé, il y a mon nom dessus. Enfin c'est voilà quoi. Ils m'ont mis dans la caisse de flic, et là je retrouve mon pote Martin qui m'avait offert cette bouée là. et ils venaient tout juste de se faire attraper en fait. Et bon, on se dit, on se fait attraper avec une bouée, au pire ils vont nous interroger, on va repartir quoi. On arrive au commissariat, on s'assoit sur un banc, on fait un utile test. Et en fait, au final, après peut-être un peu moins d'une heure, ils reviennent et ils disent « Martin, bah, vous pouvez partir. » Ok, et moi ? Bah, moi, en fait, non, moi, du coup, ils m'ont menotté au banc, en fait. Du coup, je me dis « Ah, là, c'est pas cool. » Donc là, j'attends, et puis au final, c'est là que tout débute. Je passe pour une fouille totale, donc là, je suis complètement, du coup, mis à nu. Ils me fouillent de A à Z, de tout ce qu'on peut imaginer de A à Z. Donc je suis dans le hall du commissariat, attaché à un banc, les mains dans le dos, avec la chemise complètement ouverte, comme un vaurien, quoi. Donc on m'a foutu dans une cellule, dans laquelle j'ai attendu plusieurs heures. Donc là, la nuit avait bien débuté, ensuite on m'a récupéré. Là, j'ai été de nouveau menotté, escorté par 4 flics. Ils m'ont embarqué dans une voiture de flics pour m'aller me faire faire tout un tas de prises de sang, d'analyses, etc. Tu traverses les urgences, donc complètement débraillé, encore une fois, avec la chemise grande ouverte, les mains dans le dos et 4 flics qui t'escortent pour aller faire tes analyses. Ils me ramènent dans une cellule. Vers 8h du mat, ils me redéplacent dans une autre cellule. J'ai aucune idée de pourquoi. La garde à vue, pour certains, ça peut paraître pas grand-chose quand t'as déraillé, mais quand t'as rien fait, c'est super violent, en fait. Voilà, donc je passe comme ça la nuit, aux côtés de 3 clochards différents, jusqu'à à peu près 15h. J'avais toujours pas dormi, quasiment pas mangé. Et là, à 15h, j'ai mon sauveur qui vient me chercher, un flic qui appelle mon nom. Et donc là, il m'appelle, il me dit « je viens de prendre mon service, je viens de voir pourquoi vous êtes là. Vous n'avez absolument rien à faire ici, je suis vraiment désolé. » Et moi, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé la nuit et une partie de l'après-midi en cellule, à ça, il m'a répondu « il y a des cons partout. Bonne journée. » Et voilà, et du coup, je sors. À ce moment-là, je ne me faisais pas encore de questions de discrimination. Mais en fait, j'ai jamais envie de me monter la tête par rapport à ces sujets-là. Parce que je suis né dans le Sud-Ouest, je suis grandi dans une école catholique, que mes potes, ils sont blancs, noirs. Mais j'ai pas fait la relation. C'est après que j'y ai repensé, c'est en discutant avec les autres que je comprends en fait pourquoi j'ai subi ça. Et j'ai tellement pas envie de l'entendre, de le penser, de le savoir, je crois, que j'y pense pas. Et la bouée, alors après j'ai été convoqué 2 semaines après, c'était la procédure classique, j'ai pas pu revoir la bouée, j'ai voulu, j'aurais bien aimé la revoir. Et là en fait, du coup c'était un peu un sketch, parce que pour le commissaire qui était en face de moi, que je sois là face à lui pour une histoire de bouée, d'ailleurs il m'a accueilli en me disant « bon voilà, on se voit pour une sombre histoire de bouée », je me rappellerai toujours, et je fais « ouais ». Et il m'a juste demandé ce qui s'est passé, je lui ai raconté, il m'a dit « ok, bon bah... » Je pense pas que le propriétaire du bateau porte plainte. Vous recommencerez pas, mais moi, j'ai juste envie de lui dire recommencer quoi, en fait. Ça a remis vraiment en question ma notion de justice et de confiance dans les forces de l'ordre. J'ai ça en tête, je sais que ça m'a marqué, parce que il y a une semaine, j'ai rêvé que j'étais chez moi et qu'on venait m'arrêter, emprisonné, et que je savais pas pourquoi. Et je comprenais que là, c'était une bonne fois pour toutes, que j'allais pas sortir cette fois-ci, et que je pourrais rien faire parce que ce sera une injustice et face à un système, voilà quoi. J'ai fait 2 fois ce rêve-là en 2 semaines. C'est assez bizarre, en fait.
Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et je suis responsable adjoint d'un point de vente dans la grande distribution. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 10 années, quand j'étais encore adolescent, l'année de mon bac au Havre. En parallèle de ça, je m'étais inscrit dans une préparation militaire marine, qui est donc faire ses premiers pas dans la marine nationale de manière volontaire les week-ends et sur les temps des vacances scolaires. Et donc, avec pas mal de gens de ce groupe, on était une quinzaine, on avait bien sympathisé. Et donc, tous les week-ends, on sortait pas mal, on allait souvent en boîte de nuit. Et donc, le fait d'être une quinzaine, ça avait pour avantage que même si on mettait pas des sommes exorbitantes, on avait accès au coin VIP parce que on pouvait prendre plusieurs bouteilles. Donc, avoir un coin un peu à nous, c'est ce qui était un peu plus sympa. Et donc, on est posé dans cette boîte, dans le coin VIP, on profite. La soirée est déjà bien engagée, on est déjà bien éméchés. Puis forcément, à force de boire, de danser, il y a le besoin d'aller aux toilettes qui se fait sentir. Je descends les marches pour aller aux toilettes. Et là, l'un des videurs m'interpelle, m'arrête. Et en fait, je peux pas accéder aux toilettes parce que, tout simplement, il y a eu des affaires de deal dans les toilettes. Et les videurs sont dedans avec les personnes qu'ils ont attrapées. Ils sont en train de leur expliquer que ça se fait pas ici. Donc du coup, nous, on peut pas accéder aux toilettes à ce moment-là. Sauf que si on sort, bah, toute sortie définitive. Et qu'au bout d'un moment, bah, il faut absolument que j'aille aux toilettes, tout simplement. Donc je remonte dans le coin VIP, je me mets tout au fond, je me cale à un endroit où il y a pas trop de monde et obligé, foutu pour foutu, je commence à uriner dans un coin. Sauf que à ce moment-là, il y a un videur qui commence à remonter les marches au loin et donc du coup, je le vois. Sauf que je peux pas m'arrêter. Donc j'attrape un verre qui traîne, qui est à mi-plein. Je finis mon affaire, il arrive, je fais semblant que c'est mon verre, ça passe, je me fais pas virer, je me fais pas éclater la tête, donc c'est un bon début. Je pose le verre sur la table, je m'allonge un peu, la fatigue, puis l'alcool surtout, qui se fait bien sentir. Et puis là, au milieu du coin VIP, je vois un mec que j'ai jamais vu, qui se pose à la table, puis qui commence à servir dans les bouteilles, dans les verres et tout. Alors bon, je dis trop rien, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu moyen. Et puis à un moment, il s'arrête sur le verre, donc du coup, qui était rempli moitié d'alcool, moitié d'urine, et il me demande ce que c'est, donc bon. Je me dis, allez, je lui explique que c'est un mélange de vodka flambé. Il goûte, il en boit un peu, il trouve ça bizarre, mais il le boit. Donc je rigole un peu sous cap, c'est pas du meilleur goût, mais c'est vrai que ça m'avait pas forcément plu qu'il vienne taper dans nos bouteilles comme ça. Et là, en fait, débarque une des amies justement du groupe qui se pose avec lui, et en fait, je comprends que c'est elle qui l'a ramené parce qu'elle l'avait chopé dans la boîte. Du coup, je me sens un petit peu mal. Et donc la soirée se termine et après tout à l'époque mes parents avaient une grande maison à l'entrée de la ville et ils étaient jamais là le week-end donc du coup j'avais plusieurs grandes chambres, il y avait des grandes chambres vides, des dortoirs donc c'était habituel que tout le monde vienne dormir chez moi, finir la soirée, il y avait des chambres pour ceux qui veulent dormir donc on rentre tous, on se pose. Et mon amie, donc du coup, me demande si elle peut ramener le type. Enfin, elle me demande pas vraiment, elle l'embarque, elle le ramène. Je me dis qu'après ce qui s'était passé, je vais rien dire, c'est une façon de faire mon mea culpa. On arrive, ils vont se poser, ils vont dans une chambre avec d'autres gens, ils commencent à faire leurs affaires. Nous, on se pose avec deux autres amis, donc dans ma chambre, pour boire un dernier verre. Il était 5h30, 6h du matin. Donc on reprend un dernier verre, et puis là, dans le groupe, il y en a un qui se dit, ah bah, ce qui va être drôle, on va lui faire une blague, on va lui mettre un coup de pression. Mais juste, voilà, on va juste lui faire peur, ça va s'arrêter là. On se dirige vers une armoire où il y a des armes de famille qui sont entreposées. C'est des armes qui servent pas, c'est des vieilles choses, on va dire, qui ont été conservées de génération en génération, ni plus ni moins. Donc ils prennent chacun une machette, et moi je me saisis d'un Colt 38, un revolver donc. Du coup, je le décharge, je mets les balles dans ma poche. On monte, on met un coup de pied dans la porte, on rentre en trombe, les gens se réveillent. Le gars saute comme un clown de sa boîte sur le lit, très surpris. Du coup, mes collègues le pointent avec la machette, mais tout en étant à une distance à plus de 2 mètres, hein, y avait aucun risque. Et là, notre surprise, le gars se démonte pas. Il s'en fout. Ça lui fait pas spécialement peur. Il dit, c'est bon, les gars, calmez-vous, allez, redescendez, c'est bon, vous êtes bourrés, fin de soirée. Du coup, là, je sors le Colt et je le pointe. Et là, encore plus surpris, le mec nous dit, non, mais c'est bon, range ton pétard. De toute façon, je vois bien, vu que c'est un barillet, on voit sur les côtés, je vois bien qu'il est pas chargé. Alors là, on est surpris et surtout très vexé. À 17 ans, l'ego du mal bourré est facilement contrariable. Du coup, sans ça, ce qui n'était pas prévu, très énervé, je mets une balle dans le barillet, je la fais rouler, je l'actionne. Et je lui dis, maintenant, il y a une balle, on va voir si tu portes toujours tes couilles. Et donc, du coup, le mec me dit, ok, il y a une balle. Je me dis, bon, respect, franchement, il est soit très bête, soit très courageux, j'en sais rien, peut-être un mix des deux. Et donc je lui dis, maintenant je te propose un truc. Si tu veux rester dans la chambre avec la fille, moi je fais une roulette russe, toi tu fais une roulette russe, et s'il n'y a pas de souci, tu restes là, sinon tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et le gars accepte. En fait, le jeu de roulette russe, tu faut forcément un barillet de 6 balles. On met une balle dans le barillet, on fait tourner le barillet rapidement et on enclenche dans l'arme. Du coup, on ne sait pas où se trouve la balle. On charge l'arme, on met contre sa tempe et on appuie sur la gâchette. Et vous avez une chance sur 6 de vous faire sauter la tête. Donc du coup, maintenant, il faut aller au bout des choses. Je fais tourner le barillet, je me le mets contre la tempe, je tire un premier coup. Il ne se passe rien et ensuite, c'est son tour. Et donc du coup, moi encore plus stupide, je me dis si je lui file le flingue, à tout moment il va le retourner contre nous, il nous braque. Donc du coup, je décide, c'est moi qui vais le pointer, il faut la roulette russe. Je tire, heureusement la balle ne part pas. Sauf que si ça était parti, c'est moi qui l'aurais tué parce que ça ne correspondait pas à une roulette russe vu que c'est pas lui qui se le mettait sur la tempe. Du coup, ça s'arrête là. Il reste là, il a gagné. Tout le monde va se coucher tranquillement. On se réveille le matin, forcément, avec la barre au crâne. Et puis arrive le gars qui descend de la chambre. Je le croise à l'entrée. J'avoue que j'étais mal. Il y avait du regret. Il y avait surtout cette prise de conscience que là, vraiment, les choses étaient parties loin et auraient pu ruiner sa vie, la mienne. Et puis il vient vers moi, il me tend la main et avec un grand sourire, il me dit « Ah bah franchement, j'ai passé une super soirée ». Et il est parti comme ça, je l'ai jamais revu, je sais pas qui c'est. Enfin, en tout cas, lui, ça lui avait pas posé de problème plus que ça. Et il est parti. Moi, après, j'ai passé du coup le reste de la journée dans mon lit, vraiment au fond du gouffre. Et puis grosse remise en question, donc prise de conscience que les choses avaient été beaucoup beaucoup trop loin, que c'était à la base une blague, pas forcément de bon goût, mais qui aurait pu vraiment mettre fin tout simplement à ma vie, à la sienne. Donc je me suis senti très très mal. J'ai contacté ma grande sœur qui, dans ce genre de cas, était la personne vers qui je me tournais. Je lui ai jamais rien caché, donc je lui ai tout exposé. Et même si c'était pas une surprise, elle m'a expliqué que je déconnais, même si je le savais. Mais ça m'a fait du bien de l'entendre. Et suite à ça, j'ai pris la décision de tout simplement d'arrêter de boire complètement. Plus du tout fumer, plus du tout boire une goutte. Et ça m'a permis de me calmer.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Ramzi, j'ai 28 ans, je travaille dans la restauration depuis une dizaine d'années. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe il y a 6 ou 7 ans. Bah, à cette époque-là, je bossais dans un bar gay sur Châtelet. C'était un samedi soir. Et à un moment, je descends aux toilettes. Et là, t'as une fille qui me rejoint. Et elle commence à me faire « Ouais, t'es trop mignon !» À moitié un peu beurrée, la meuf. Et elle me fait « Ouais, j'ai trop envie de prendre ton numéro, j'ai envie qu'on se revoie. » Et puis moi, je lui dis « Ah, vas-y, pas de souci, prends mon numéro. » Et puis j'étais pas non plus désintéressé d'elle. Du coup, je lui donne mon numéro, mon service se termine. Et on s'échange des textos jusqu'au jeudi. Et au jeudi, je lui dis, bah vas-y. Elle me dit, ouais, je suis en repos, tu veux passer à la maison. Je lui dis, ok, pas de souci, j'arrive. Et elle m'envoie l'adresse, et là, je vois Chantilly dans le 60. Je dis, bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. J'avais pas peur de l'aventure. Je prends le train, je commence à angoisser, je dis mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, mais pourquoi t'y vas? Allez, j'arrive à Chantilly, et là elle habite pas à Chantilly même, elle habite à genre 20 minutes à pied de Chantilly, je fais putain. Du coup j'arrive là-bas, il était à peu près 17h30, 18h, il commençait à faire nuit, et je m'approche de cette maison, et là j'entends un chien aboyer, genre waf waf waf. Et là, je commence à voir le palpitant qui s'emballe. Je dis, putain, déjà que j'aime pas trop les clebs, alors en plus, ils sont agressifs. Elle ouvre la porte et là, le chien me saute dessus. Je commence à dire, putain, j'ai trop peur. Le truc hyper angoissant, je rentre et je lui demande, ouais, t'as pas un truc à boire, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et là, elle me présente sa petite fille qui s'appelait Jade, qui avait genre 2 ans. Et du coup, je prends la petite fille dans mes bras. Je dis, ah, elle est trop mignonne, ta fille. Et on commence à parler. Je lui demande, ouais, tu fais quoi dans la vie? Et là, elle me dit, bah, je suis flic municipal. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah, j'ai jamais fait du flic municipal, ça peut être quand même un truc, je pourrais la raconter aux copains. Et je lui dis, alors, comment ça se passe le boulot? Et là, elle me sort, non, ça se passe mal, les Arabes et les Noirs dans le quartier, ils me font chier. Je dis, ah merde, putain, elle est un peu raciste en plus dans ça. Et elle me dit, mais t'inquiète, toi, t'as l'air d'être un bon Arabe. C'est un peu gênant, mais je fais un peu genre mine de pas comprendre, de faire mais non, mais t'inquiète, ils sont pas tous méchants. Et à un moment, elle m'emmène dans sa mezzanine, et là, je tourne la tête, l'horreur. Je vois que des posters de Johnny, des DVD de Johnny. Et je lui demande, t'aimes bien Johnny? Et elle commence à me pénave, elle me met du Johnny, je fais non. Et du coup, j'étais un peu genre, merde, qu'est-ce que je fous là? Et de plus en plus, mon cerveau reprend le contrôle et me dit, barre-toi. Pourquoi je pars pas? Parce que j'étais arrivé jusqu'ici et j'avais grave la dalle à ce moment-là. Ça faisait genre, peut-être, je sais pas, peut-être quelques mois que j'avais pas trouvé une personne qui avait envie de moi. Sauf qu'à un moment, elle commence à me sauter dessus, elle commence à m'embrasser et je me laisse porter par le truc. En la déshabillant, je vois un tatouage sur son épaule en chiffres romains. J'étais curieux, je lui dis alors qu'est-ce que ça représente le tatouage ? Et là, elle me regarde avec un regard hyper froid, genre ça, tu vois, c'est la date de naissance et de la mort de Jacques Mesrine. Et là, je fais merde, mais c'est qui cette meuf ? De quelle planète elle vient ? Je dis rien, je me laisse aller encore. Je commence à entendre le bébé chouiner un petit peu en bas. Et là, elle retire son pantalon. Et j'ai un temps d'arrêt. Et là, je vois qu'elle a la culotte toute rouge. Et là, je dis non, c'est trop. Je la repousse. Elle dit qu'est-ce qu'il y a ? Je descends de la mezzanine, je cours et j'attrape son bébé. Et je lui dis non, c'est pas possible. Attends, on peut pas le faire. Ton bébé, il pleure et tout. Moi, ça peut pas, je peux pas me permettre ça. Elle se rhabille, elle redescend. Et elle m'attrape et elle me fait « Toi, t'es le mec le plus génial que j'ai rencontré. T'as refusé de me faire l'amour, t'as voulu plus prendre soin de ma fille. » Du coup, je prends le bébé qui, dans la pièce, était peut-être la seule chose qui avait un peu d'âme encore à ce moment-là, entre moi qui avait la dalle, elle qui était très chelou, et le bébé entre nous. Faut que tu te barres, faut que tu trouves une solution. Du coup, je prends mon téléphone, j'envoie un texto à un pote, genre « Appelle-moi ». Discrètement, je le pose sur la table, le truc j'avais mis à fond pour que ça sonne. Bip, 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 bip. Je réponds, allô ? Ah, Malo, ça va ? Ah, mais oui, c'est vrai que c'est ton anniversaire. Ah, mais merde, j'avais complètement oublié. 30 ans ? Ah, mec, c'est trop important. Ah, j'arrive tout de suite. Je raccroche. Et je lui dis, il faut que j'y aille. Elle me fait, mais tu veux pas rester, passer la nuit avec moi ? Je lui dis, oh non, meuf, j'ai complètement zappé les 30 ans de mon pote, c'est hyper important, faut que j'y aille. Je claque quand même un petit bisou sur le front du bébé et lui dire bah bonne chance pour la suite. Et là, elle ouvre la porte, son klebs qui me saute encore dessus. Ouf, 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 ouf. Je descends les escaliers à balles, je sors du truc. Et du coup, je rentre sur Paris et j'arrive dans une énorme soirée. Et puis là, je continue à faire la fête avec des potes en leur racontant cette histoire. Et ils me font « t'es vraiment un gros malade ».
Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, j'habite à Rouen, je suis originaire du Havre. Je reviens donc régulièrement au Havre pour voir des amis et j'ai notamment un ami avec lequel, lorsqu'on sort le soir, lorsqu'on va au bar ou quoi que ce soit du genre, lorsque la soirée se termine, en fait, on n'a pas envie et on n'est pas forcément en état de rentrer chez nous directement. Et plutôt que de rentrer directement, se coucher et que ça tourne à fond dans le lit et qu'on n'arrive pas à dormir, bah, on préfère aller prendre l'air dehors, visiter des lieux abandonnés, rentrer dans des endroits un peu inédits pour se faire peur, pour s'amuser. Le but étant pas de vandaliser, de dégrader ou quoi que ce soit. Même si on a l'occasion de ramener un petit trophée ou un petit truc qui nous rappelle cette soirée-là, on va pas s'en priver non plus. Cette histoire a un peu commencé comme toutes les histoires d'exploration qu'on a avec le pote en question. On s'est retrouvés, en fait, la soirée se termine. Et voilà, on n'avait pas envie de rentrer sur le moment. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah viens, on va explorer un peu des endroits qu'on connaît pas trop. Puis on s'est retrouvé en fait à errer un peu dans les rues et à trouver un bâtiment qui avait l'air un peu officiel, un peu... On voyait que c'était pas des habitations. Donc on se retrouve, mon ami et moi, à rentrer dans ce bâtiment dont la porte était entrouverte et donc à explorer ce bâtiment où il y avait des bancs qui étaient alignés, des... Ça faisait très officiel, et en fait, en ouvrant les placards, etc., en fait, on a vu qu'il y avait des bibles un peu partout, que c'était un édifice religieux. Et donc, une fois qu'on a exploré un peu tous ces endroits, on se dit, bon, c'est pas possible, il faut qu'on parte avec un souvenir. Et nos yeux tombent tous les deux, en même temps, sur un énorme crucifix qui est posé sur le linteau d'une cheminée, ou dans un coin, je saurais plus trop dire. Et on se regarde dans les yeux et on se dit « Ok, c'est obligé, on part avec, on se débrouille. » Et on se retrouve donc à essayer d'embarquer ce crucifix en fer forgé, enfin qui pèse une tonne, qui fait 1 mètre, 1 mètre 20. En fait, le truc est tellement grand que du coup on a dû démonter le socle pour remettre le socle dans mon sac et sangler le crucifix sur mon sac à dos. Et ça nous a pris un temps monstrueux parce qu'on voyait un peu trouble, etc. Et donc du coup, nous voilà embarqués sur une balade à vélo avec l'énorme crucifix qui me pèse dans le dos et nous morts de rire en train de prendre des photos, d'en rire, etc. Jusqu'à arriver chez mon ami et à le déposer fièrement au milieu de son salon et à rigoler avec. 3 semaines après, le pote en question s'est rendu compte qu'en fait un crucifix d'1m20 chez soi, ça prend de la place. Et donc du coup, il m'a envoyé un message pour me dire « Bon bah voilà Hugo, je vais me débarrasser du crucifix, je vais le redéposer dans un hall d'immeuble, pas très loin de là où on l'a embarqué, pour qu'il soit retrouvé, etc. » Quelques mois passent et un jour je reçois le lien d'un article relatant que en fait le grand crucifix qui a été volé dans la grande aumônerie du Havre a été retrouvé dans un escalier. Alléluia, miracle, il a retrouvé sa juste place, etc. Appel à témoins, donc voilà, l'histoire qui prend l'ampleur, on est recherché. Et donc du coup j'envoie ça à mon pote avec qui j'étais ce soir-là. Et ce qui nous a beaucoup fait rire, c'est que du coup, il demande un signalement des personnes et que nous, on a nos téléphones qui sont bourrés de photos de nous en train de poser avec le crucifix dans l'ascenseur, dans l'appartement, dans la rue, sanglés sur le sac, etc. Et nous est même venue l'idée d'envoyer des photos de façon anonyme avec nos visages floutés pour qu'un ultime article paraisse juste pour rire et juste pour la gloire. Et au final, cet article, il va peut-être sortir aujourd'hui. Cette histoire ne se terminera jamais. Don't give me that cocaine, whiskey or rum. Don't wanna run in, don't wanna have that cocaine, whiskey or rum. Don't wanna run in, don't wanna. You know you're putting me down on the spot. Every time I've been crazy with the cops, now my heaven goes. Don't you know, till you take it all. Don't you know you're putting me down on the spot. Every time I get crazy with the rock, then my heaven goes. Don't you know who you're gonna call. Don't give me that cocaine, whiskey or rum. Don't wanna run in, don't wanna have. Don't wanna run and don't wanna. I'm using you cause I'm feeling lost, but it's wearing down just to pay for the cost. And my soul is so low that I'm begging you for more. With a bloody nose looking like a bag of bones, punching my card on a different Jones. Hold me steady, I'm not ready, don't go.
C'était « Quand la fête tourne mal », un reportage d'Alice Babin réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Jean-Christophe Francis et diffusé pour la première fois en avril 2019. Merci à PH, Ramzi, Hugo, Loulou, Moussa et Louis Gonzalez. Bien sûr, à vous, auditeurs et auditrices, tous mes vœux de nouvelle année ainsi que ceux de toute l'équipe des Pieds sur Terre parmi elle, Zoé Coupé, notre attachée de production, et Hortense Martin, notre stagiaire. Don't wanna run and don't wanna have that cocaine, whiskey or rum.